penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour Régine.
Bonjour Père Poirier. Donc, dans le cadre de cette émission « Penser et dire sa foi », nous achevons avec vous toute une série sur le Pentateuque. Comment se termine-t-il ?
Si vous le permettez, je vais lire, non pas l'ensemble du chapitre 34, bien qu'il soit assez court, mais une partie. Je vais commencer au verset 4. Nous sommes donc au-delà du Jourdain, face à Jéricho, sur le mont Nebo, et Dieu mène... fait monter Moïse sur ce mont pour lui montrer l'ensemble de la terre promise aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et à Jacob en leur disant, c'est à ta descendance que je le donne. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y passeras pas. Et Moïse, le serviteur d'Adonai, mourut là, au pays de Moab, selon la déclaration de Adonai. Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor, et personne n'a jamais connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans quand il mourut, sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité ne l'avait pas quitté. On nous raconte ensuite comment les fils d'Israël le pleurèrent, et puis ça va s'achever ainsi, à la fois le Deutéronome et le Pentateuque. Plus jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse, lui qu'Adonai connaissait face à face. Lui qu'Adonai avait envoyé accomplir tous ses signes et tous ses prodiges dans le pays d'Égypte devant le Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays, ce Moïse qui avait agi avec toute la puissance de sa main en suscitant toute cette grande terreur sous les yeux de tout Israël. Voilà donc la magnifique fin du Pentateuque.
On peut dire quand même qu'elle est peut-être un peu frustrante si on regarde ça avec... toute cette mission.
Ah ben, si on voulait psychologiser, oui. on pourrait dire qu'effectivement, Moïse a dû être frustré.
Et en fait, si près du but.
Et en fait, Moïse se montre jusqu'au bout solidaire de ce peuple qui, à un moment donné, s'est révolté, n'a pas cru en Adonai. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Dieu avait dit, ça nous est narré dans le livre des Nombres, hein, que Dieu dit, ben, cette génération qui est sortie d'Égypte, elle manque de foi et c'est pas elle qui entrera dans le pays promis au Père. Et Moïse reste jusqu'au bout. C'est très très beau cette solidarité de Moïse avec un peuple rétif, un peuple à la nuque raide, selon l'expression d'ailleurs courante dans le Deutéronome. Et jusqu'au bout, il est solidaire de ce peuple. Et donc, il n'entrera pas dans ce pays, mais Dieu lui fait la grâce d'apercevoir de loin, de le voir, mais non point d'y entrer.
Saint Augustin se demandait dans les confessions si Moïse était là. Je lui demanderais ce qu'il a voulu dire, mais il a écrit et il est parti. Alors pourquoi à ce moment-là ? Est-ce que l'histoire, loin d'être achevée, a une suite avec donc ses fils d'Israël et qui n'ont pas pu encore pénétrer dans la terre de la promesse ?
Et c'est justement ce que va nous raconter le livre suivant, le livre de Josué. Comment ils vont traverser le Jourdain avec un miracle qui rappelle celui de la traversée de la mer, puisque les eaux vont s'arrêter pour leur permettre de traverser à pied sec. Puis ensuite, il va y avoir la prise de Jéricho, la première ville, hein, prise, cette fameuse trompette, hein, tout le monde connaît ce passage. Et puis l'occupation de la Terre Sainte, et puis finalement, ils vont se retrouver à la fin donc au Sichem, qui est une ville proche de Naplouse aujourd'hui, pour que nos auditeurs puissent le situer géographiquement, où l'ensemble des fils d'Israël vont s'engager dans l'alliance après un très beau discours de Josué. Et on pourrait dire que là, on a un point final pour le coup, hein, la fin du livre de Josué. Mais vous avez raison, le Deutéronome nous laisse sur une porte ouverte. Et on peut se demander, est-ce qu'ils vont y entrer ou est-ce qu'ils ne vont pas y entrer ? Si oui, est-ce que ça va être facile ou pas ? Est-ce qu'ils vont y observer les commandements ? Puisque dans le Deutéronome, on nous a dit, si tu entres dans ce pays mais que tu oublies les commandements, bien tu en seras chassé. Et c'est ce qui, effectivement, va arriver bien plus tard. Et on pourrait dire donc qu'on a ici un Israël qui s'arrête et qui n'est pas encore au bout des promesses, qui n'est pas encore dans la phase de l'accomplissement des promesses divines. Alors on a ceux qui étudient un peu l'histoire de la constitution du Pentateuque nous disent, et bien entendu je les suis sur ce point, que le Pentateuque a été formé comme ensemble de référence au moment où Israël se reconstruit après l'exil à Babylone. Il faut constituer un peuple avec des gens qui ont été en exil, d'autres qui étaient restés sur place. Ils ont été en exil dans différents endroits, pour l'essentiel en Babylonie, mais d'autres sont partis au nord de l'Égypte. Et voilà, il faut reconstituer. Il faut avoir en quelque sorte une constitution, si vous voulez, définissant l'identité de ce peuple. Et ça va être le Pentateuque. Mais il a sans doute existé, disent les exégètes, une version du Pentateuque plus le livre de Josué. Dès lors, on parle d'un hexateuque. Pentateuque, 5 livres. Hexateuque, 6 livres. Et ils disent qu'il y a eu, comme ensemble référentiel, ces deux possibilités. Alors, du côté de ceux qui étaient effectivement revenus à Jérusalem, dans le pays de Judée, la province de Yehoud, eh bien, il y avait cette version de l'hexateuque, c'est-à-dire que pour qu'Israël existe comme peuple de Dieu, il faut qu'il soit sur sa terre, il faut qu'on ait reconstruit le temple, il faut qu'on puisse à nouveau y célébrer des sacrifices, que seul Dieu y soit adoré. Ça, c'est la version hexateuque. Hein. Et puis, ceux qui sont restés dans la diaspora, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas rentré, loin s'en faut. D'ailleurs, ceux qui vont reconstruire Israël, comme Esdras, comme Néhémie ou comme Zorobabel, viennent tous de Babylonie et d'ailleurs, ils repartent. On peut exister comme peuple de Dieu quand bien même on n'est pas sur la terre, quand bien même on ne la possède pas. Et c'est bien l'expérience qu'Israël a faite pendant l'exil, puisqu'ils étaient, au moins une grande partie, on va dire l'élite, était hors de la terre. Et donc qu'est-ce qui définit l'identité d'Israël ? Est-ce qu'Israël peut être pleinement ce qu'il doit être, ce qu'il est appelé à être par Dieu, s'il n'a pas la terre, s'il n'a pas de roi ? S'il n'a pas de structure étatique, eh bien la réponse du Pentateuque, c'est qu'il l'est quand même. Et vous voyez tout de suite comment cela a pu permettre à Israël de traverser ensuite ces longs siècles où ils n'étaient pas sur cette terre, où ils étaient, où la diaspora formait l'essentiel, quasi-essentiel du peuple juif. Et en même temps, je dirais que cette fin du Pentateuque qui se termine donc sur quelque chose qui n'est pas encore terminé, enfin qui se termine, qui s'achève sur une fausse fin, hein, et qui appelle une suite, hein, eh bien, nous dessine un accomplissement qui reste ouvert, qui demeure ouvert. Est-ce que l'occupation de la terre par Josué et par l'ensemble des tribus ferme l'histoire ? Eh bien non, l'histoire va quand même continuer. Donc vous voyez, l'occupation de la terre peut être une des formes d'accomplissement des promesses, mais pas la seule. Et c'est ce que va méditer notamment tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Donc là, c'est évidemment pour nous les chrétiens. L'Épître aux Hébreux va dire, et en fait, le pays vers lequel ils marchaient, ce n'était pas cette terre concrète, mais c'était une cité qui les attend, qui est une cité céleste. La Jérusalem céleste, n'est-ce pas ? Et ils ont vu de loin les promesses, mais sans pénétrer dedans. Hein. Et donc, il y a cette, je trouve, cette très très belle ouverture hein, du Pentateuque sur un au-delà de lui-même. Et ça, c'est une histoire qui n'est pas terminée et qui est ouverte. Et souvent, plus j'étudie le Pentateuque, et même l'ensemble de la Bible hébraïque, on pourrait le dire aussi, En tant que chrétien, et en regard évidemment avec l'accomplissement en Jésus-Christ, avec l'événement de Jésus-Christ mort et ressuscité, et bien plus je vois des points de concordance, combien je vois que, si je puis dire, avec cette fin ouverte, ou plutôt cette fin ouverte permet un accomplissement en Jésus-Christ. Et de fait, on voit dans les évangiles, à la fois une forme de scandale que peut constituer Jésus-Christ au regard de Moïse, et ça va être particulièrement travaillé ça dans l'évangile de Matthieu, mais en même temps, c'est plutôt la perspective lucanienne cette fois, de Luc, combien il accomplit les promesses. Et là, vous avez ce fameux récit au chapitre 24 de Saint-Luc, où relisant, repartant de Moïse et des prophètes, Jésus, donc ressuscité, qui chemine avec les disciples d'Emmaüs, qu'ils n'ont pas encore reconnu, il leur raconta dans les Écritures tout ce qu'il concernait. Donc, on peut relire comme chrétien, mais en faisant justice au Pentateuque, à tout ce qu'il représente, en respectant et en admirant aussi cette loi qui a fait faire un saut qualitatif, éthique, mais aussi religieux à l'humanité, eh bien, tout en respectant cela, nous orienter vers un accomplissement qui se trouve au-delà.
Merci, Père Poirier, pour ces 4 émissions consacrées au Pentateuque. Émissions qui donneront certainement le désir d'en connaître plus sur ces livres passionnants. Et je propose donc à nos auditeurs de poursuivre cette recherche avec le cours qui sera donné par le Père Poirier au second semestre à l'IERP, place du Parlement à Toulouse.
Ça sera avec plaisir que je vous y retrouverai.